Le phénomène du transfert du soutien des fidèles et l'émergence de nouveaux idéaux. Cette division plutôt tranchée de la foi bouddhique en deux groupes, l'un recherchant la libération du cycle de la souffrance, c'est-à-dire du modèle de la douleur et de l'insatisfaction récurrente qui reviennent constamment, que l'on vit dans le cycle des existences ou samsara, et l'autre n'espérant que le réconfort temporaire à l'intérieur de celui-ci et peut-être la chance d'une meilleure renaissance, eurent une influence profonde sur la manière dont le bouddhisme se développa, se modifia et se propagea. Le système existant exigeait que les membres ordonnés du Sangha continuent d'être hautement respectés par les laïcs. Les arhats des débuts, comme Ananda et les patriarches qui suivirent, voir la section « La convocation du premier concile bouddhique » plus haut dans ce chapitre, furent sans aucun doute dignes de la plus haute estime. Pourtant, tout le monde portant la robe d'un moine ou d'un prêtre n'est pas forcément un modèle de vertu. Cette dure vérité qui frappe de nombreuses religions aujourd'hui, bouddhisme et autres, saute aux yeux et elle nous est souvent douloureusement rappelée. Or, lorsque les laïcs d'une ville indienne donnée, par exemple, perdaient foi dans les moines bouddhistes locaux, s'ils les trouvaient distants, peu sincères, paresseux, voire corrompus, ils finissaient par leur retirer leur soutien, ce qui entraînait le début de l'effritement du système monastique dans cette région. Il existe des preuves historiques qui indiquent que certains laïcs transférèrent aux stupas l'allégeance et le soutien qu'ils apportaient auparavant à la communauté monastique. Stupas, monument situé partout en Inde et dont le nombre ne cessait de s'accroître. Voir la section « Le grand empereur Ashoka fit du bouddhisme la religion du peuple » plus haut dans ce chapitre. Les fidèles considéraient ces monuments construits à l'origine pour abriter les reliques du Bouddha comme indissociables du Bouddha Shakyamuni lui-même. Un nombre grandissant de bouddhistes, laïcs comme moines, se rassemblaient devant ces représentations de l'éveil suprême et marchaient autour des stupas de la même manière que les propres disciples de Shakyamuni, des siècles auparavant, avaient respectueusement marché autour du Bouddha avant de s'adresser à lui. Pour en savoir davantage sur l'emplacement de ces stupas, voir le chapitre 9. Pour beaucoup de ceux qui avaient l'intention de collecter des mérites, le bonus qu'ils tiraient des offrandes à ces représentations de l'esprit éveillé du Bouddha semblait être supérieur à celui issu du soutien au Sangha. N'oubliez pas. Vers la même époque, alors que le culte des stupas prenait de l'ampleur, la seconde forme de pensée et de pratique bouddhique, le bouddhisme Mahayana, émergea en Inde. Cette approche s'appelle le Mahayana, ou grand véhicule, parce qu'elle fait à tous, et pas seulement aux rares moines, la promesse de l'éveil. Cet esprit inclusif, plus particulièrement aux laïcs, dont les besoins spirituels n'étaient pas satisfaits par les formes de pratique plus restrictives qui prévalaient alors. N'oubliez pas. Au centre de la conception Mahayana, on trouve la figure du Bodhisattva. Les partisans du bouddhisme Mahayana n'inventèrent pas ce terme, mais ils en élargirent le sens. Avant la montée du bouddhisme Mahayana, la plupart des bouddhistes croyaient qu'il n'existait qu'un seul être d'éveil, ou Bodhisattva, Bodhi signifiant éveil, Sattva signifiant être, au cours de chaque ère. Cette figure unique était destinée à devenir le Bouddha qui révélerait le Dharma valable pour cet âge-là. Dans les contes de Jataka, qui sont les histoires que le Bouddha a racontées au sujet de ses propres vies antérieures, par exemple, le Bodhisattva se présente une fois comme un animal, une autre fois comme un humain, mais chaque vie se rapproche de son but d'obtention de l'éveil complet en tant que Bouddha Shakyamuni. Selon le bouddhisme Mahayana, quiconque suffisamment compatissant et dévoué pour placer le bien-être des autres devant sa propre atteinte du nirvana peut réaliser le même éveil que Shakyamuni. Autrement dit, au lieu de s'efforcer de devenir des arhats pour n'obtenir la libération que de soi-même, les bodhisattvas, compatissants, visent l'obtention de la bouddhéité afin d'apporter des bénéfices infinis aux autres. Cela indique une autre raison de l'emploi du terme Mahayana ou grand véhicule. Ces préceptes non seulement bénéficient à un grand nombre d'êtres, mais ils mènent aussi les pratiquants bodhisattvas à la plus grande des réussites possibles, l'éveil suprême. Attention. Pour les personnes qui manquaient de cette intention altruiste suprême et n'avaient pour objectif que leur propre libération, les bouddhistes Mahayana ont forgé le terme plutôt négatif de Hinayana, ou petit véhicule. Nous avons évité d'employer ce terme jusqu'à présent et nous ne l'utiliserons plus dès le prochain paragraphe parce que de nombreux auteurs s'en sont servis de façon imprécise pour désigner des traditions bouddhiques entières comme le Theravada. Cette catégorisation est extrêmement injuste, car on trouve des pratiquants d'un dévouement et d'un cœur exceptionnel dans les rangs de la tradition Theravada. Elle maintient depuis toujours que la sagesse qui vous libère de la souffrance est le sommet de la pratique de la compassion et de la vision profonde. En outre, elle a considérablement évolué au cours des siècles, et de nos jours, la plupart de ses instructeurs, surtout en Occident, accordent une importance toute particulière à la culture de la compassion et de la bonté envers les autres, plus qu'à celle de la vision profonde personnelle. Les termes Mahayana et Hinayana désignent des attitudes que n'importe quel pratiquant de chaque tradition peut avoir à tout moment. Comme l'a fait observer l'un des instructeurs de Yon, il n'est pas possible de dire que tel ou tel pratiquant sont adeptes de la tradition Mahayana ou de la tradition Hinayana en regardant simplement les écritures qu'ils vénèrent ou l'école dont ils sont adeptes. Ce sont les gens eux-mêmes et personne d'autre qui peuvent faire ce choix qui les concerne personnellement, et ce, en explorant les profondeurs de leur propre cœur. Vous pouvez par exemple vous targuer d'être un adepte du bouddhisme Mahayana, mais si vous ne vous intéressez qu'à votre propre bien-être, ou pire encore, aux plaisirs éphémères du moment, alors vous n'êtes pas digne de cette appellation. C'est une question très personnelle. Comme Joseph Goldstein, un instructeur vipassana américain, l'a souvent dit, « Que les véhicules soient petits ou grands, ils sont tous enlevés par la fourrière aux frais du propriétaire ».